Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Il y a 10 jours, à Paris, le journal satirique Charlie Hebdo était la cible d'un attentat terroriste. Une première attaque suivie de 2 autres qui auront en tout coûté la vie à 17 personnes, parmi lesquelles de nombreux journalistes et caricaturistes de l'hebdomadaire satirique. Des journalistes qui se savaient menacés de mort depuis qu'ils avaient publié les caricatures de Mahomet, le prophète des musulmans, en 2006. Les locaux du journal avaient d'ailleurs été incendiés il y a 2 ans, sans faire de victimes à l'époque. Il est encore difficile aujourd'hui de mesurer précisément les conséquences de ce massacre, non seulement en France, mais aussi en Belgique et ailleurs dans le monde, où l'on a pu observer un élan de solidarité de grande ampleur avec les victimes de l'attentat. Mais 10 jours après, comment réagissent déjà les journalistes? La peur de nouveaux crimes va-t-elle tétaniser la profession? Va-t-elle même tétaniser nos sociétés démocratiques? Comment interpréter le large mouvement de solidarité qui s'est exprimé dans nos rues ces derniers jours? Et finalement, comment faire pour préserver les valeurs essentielles au vivre ensemble dans nos sociétés démocratiques suite à cet attentat? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos invités. Martine Simonis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire générale de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels en Belgique francophone. Henri Bartholomé Hussein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du CAL, le Centre d'Action Laïque. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose tout d'abord d'écouter quelques extraits d'interviews de certains journalistes et caricaturistes de Charlie Hebdo, des archives sonores désormais, pour ne pas oublier non plus ce qui animait ces libres penseurs convaincus dans leur travail au quotidien, malgré les menaces qui les visaient. On écoute dans l'ordre Charb, Cabu, Wolinski et Bernard Maris, connus sous la plume d'Oncle Bernard.
Je ne vois pas comment je pourrais vivre dans un pays où je ne pourrais plus rire de tels sujets parce qu'il y a un risque. Il y a un risque judiciaire, ou il y a un risque mortel, ou il y a un risque... Non, je préfère autant crever tout de suite.
Il y a toujours les mêmes tabous, vous savez, depuis que je suis dessinateur, c'est l'armée et la religion.
Et moi, je suis un incroyant, et parce qu'un humoriste ne peut pas croire en Dieu.
En fait, la laïcité est tolérante vis-à-vis des religions, a priori. Donc, et la laïcité, c'est un besoin de fraternité, c'est-à-dire un besoin de considérer les autres de façon égale. Et malheureusement, la crise économique, le développement des inégalités, la hiérarchisation des revenus font que ce sentiment de fraternité et d'égalité se délite dans la société.
C'était des plumes bien trempées, des esprits frondeurs. C'est un peu l'esprit également de Charlie Hebdo. Pour commencer, rappelez-nous peut-être ce que représentait Charlie Hebdo dans le paysage médiatique français. Et ce qu'il représente toujours d'ailleurs.
Oui, je pense qu'il faut le dire au présent, parce que Charlie Hebdo va reparaître avec toute la solidarité médiatique et du public qui s'est... focalisé autour de ce magazine. Alors c'est un magazine qui pourfend toutes les religions, toutes les injustices, avec un humour qu'on peut ou non apprécier. Moi je l'ai souvent trouvé de mauvais goût, mais c'est un humour potache, irrévérencieux, qui ne respecte pas les codes habituels, qui est politiquement très incorrect, souvent drôle, pas toujours, mais toujours sans haine. Et ça, pour moi, c'était important. On n'a pas trouvé dans Charlie Hebdo des appels à la haine.
C'est la question que j'allais vous poser, s'il y avait eu plainte pour appel à la haine ou racisme, que sais-je encore, contre Charlie Hebdo, étant entendu que ce pourrait être un journal belge, est-ce que ces plaintes auraient été recevables, selon vous, compte tenu du type d'humour qui était pratiqué?
Par rapport à l'humour, on a beaucoup de tolérance dans notre dans l'ordre judiciaire. C'est-à-dire que l'humour, c'est sans doute la forme ultime. L'humour, la caricature, la forme ultime de la liberté d'expression. Et il y a beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de l'humour et de l'image, caricature, que vis-à-vis des textes, où là, on doit s'appuyer sur des faits. Les opinions ne peuvent pas être haineuses. Il y a toute une série de limitations qui existent aussi pour l'humour, mais qui sont moins strictes. Donc on a pour la caricature de presse beaucoup plus de liberté que pour le texte, le reportage, l'image télévisuelle ou les reportages en radio.
Henri Bartholomé Hussein, cet attentat contre Charlie Hebdo a eu lieu à Paris et néanmoins une vague d'émotion et de solidarité également ici en Belgique et dans de nombreux autres pays. Vous personnellement, comment avez-vous interprété cet acte terroriste ?
Mais c'est l'expression, c'est la volonté d'étouffer la liberté de penser, la liberté d'expression, qui est au cœur même de cet acte-là, par la mort, par la terreur, ce qui est un acte barbare, cela a été dit à suffisance. Mais qui plus est, effectivement, il relève d'une certaine forme de fanatisme si l'on considère qu'il a été fait au nom de Dieu. Alors, encore une fois, et comme je l'ai déjà dit, il faut être juste, c'est davantage peut-être un acte fasciste, un acte impérialiste, un acte de terreur qu'un acte religieux, mais on ne peut absolument pas déconnecter, je dirais, la composante religieuse du crime lui-même. Et ça nous invite effectivement à nous interroger. Il est peut-être temps que les grands leaders religieux ne se limitent plus à pleurer ou à condamner de tels actes. C'est la moindre des choses, me semble-t-il. Nous avons vu d'ailleurs le mouvement d'opinion qui s'est dessiné. Il eût été inconcevable que les chefs religieux soient en deçà de ce mouvement de réaction tout à fait sain. Il est temps qu'ils puissent dire haut et clair que, je dirais, l'apostasie, que l'athéisme, que le blasphème sont non pas des crimes, mais des droits fondamentaux. Autrement dit, il faut que les grandes religions, si elles veulent apprendre à survivre ensemble, dans un monde qui est devenu unique, qui est devenu entier, qui vit dans le même espace-temps, il faut que ces grands chefs religieux puissent dire clairement à leur communauté que les vérités sont relatives et que les religions sont contingentes, à différence de ce qui était exprimé par votre dernière interviewée, d'une valeur laïque et universelle qui serait celle de la fraternité. La fraternité humaine, elle est humaine parce qu'elle est universelle. Elle est universelle parce qu'elle est humaine. Le critère n'est pas la communauté, le critère c'est l'humanité. Et c'est ainsi qu'il faudrait peut-être davantage s'intéresser peut-être à l'éducation plutôt qu'à la coercion, plutôt qu'à, je dirais, cette super réaction maintenant très émotive, mais qui bien sûr a très peu de fond. C'est surtout l'horreur qui rassemble les populations. Il faudra maintenant donner un contenu, il faudra de manière intellectuelle faire l'analyse de ce qui s'est produit et surtout l'analyse des moyens d'y répondre.
Martine Simonis, Henri Barthélemy-Hussein vient de faire référence à cette réaction émotive qui s'est exprimée dans les rues de Bruxelles, notamment dimanche dernier, à Paris, en France, plusieurs villes, même au Chili, ai-je entendu. Une réaction émotive qui est parfois un petit peu questionnante quand on voit certaines réactions de solidarité vis-à-vis des journalistes décédés. On a entendu le pape s'exprimer, dire « je suis Charlie », certains dignitaires religieux, des hommes politiques, des sportifs même, des personnalités qui étaient tout simplement au cœur des moqueries hebdomadaires de Charlie. Comment interprétez-vous ce mouvement? Est-ce qu'on n'est pas face quelque part à un peu de récupération ou de solidarité obligée?
Peut-être. Je pense que les victimes qui sont parmi les journalistes de Charlie Hebdo n'auraient sans doute pas apprécié tous les hommages qui leur ont été rendus, notamment des hommages religieux, notamment des hommages de puissants qu'ils n'arrêtaient pas de stigmatiser. Maintenant, je pense aussi que si ces personnes-là n'avaient pas réagi, je crois qu'on serait en droit de leur reprocher. On a l'impression, en effet, que pour l'instant, tout le monde est Charlie. Bon, il faut se souvenir que Charlie Hebdo tirait à seulement 60 000 exemplaires. Ça veut dire qu'énormément de gens ne l'achetaient pas. Et puis, Charlie Hebdo était régulièrement attaqué en justice. Ça veut dire que beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Mais aujourd'hui, je pense que Charlie Hebdo est devenu un symbole, peut-être le symbole extravagant, mais le symbole de la liberté d'expression. Et tout le monde se dit que quand la liberté d'expression disparaît d'une société, ou quand on veut la tuer, la réduire au silence, en fait on change de régime. C'est comme si la démocratie se délitait dans la terreur. Et c'est la raison pour laquelle sans doute tout le monde a réagi. Maintenant, moi je pense qu'on doit faire chacun son examen de conscience et puis se dire à un certain moment, qu'est-ce que je fais moi pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse, comment j'aide le monde journalistique, comment je le soutiens, que représente pour moi vraiment cette liberté d'expression, comment je l'utilise, quels sont les débats que je peux mener avec mon entourage, avec mes voisins, quel est mon engagement dans la société.
En tant que secrétaire général de l'Association des journalistes professionnels, justement, vous avez le sentiment que les journalistes, que la presse, que les médias sont suffisamment soutenus aujourd'hui?
Jusque-là, on ne l'avait pas. Donc on s'est souvent trouvé seul dans des combats qu'on menait pour le public. Par exemple, la loi sur le secret des sources, on n'a pas eu le public autour de nous. Et pourtant, c'est une législation qui bénéficie au public, celle d'avoir des informations qui ne sont pas seulement les informations officielles. Donc on a mené toute une série de combats où on s'est parfois senti très seul. On a eu à côté de nous, très souvent, les avocats, le monde de la justice. Mais pas nécessairement le grand public. Or, l'information journalistique, elle est destinée au grand public. Donc, moi, je trouve ce qui se passe là maintenant, depuis les événements de Charlie Hebdo, ça nous donne un nouveau souffle. C'est comme si on arrivait à remettre des ponts entre les publics et le travail journalistique. Et ça, pour nous, c'est vraiment important.
Henri Barthélemy-Sel, Martine Simonis disait il y a quelques instants que la démocratie peut se déliter dans la terreur. C'est votre crainte aujourd'hui ?
Ah, c'est une chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Je suis relativement optimiste. Je pense que derrière la catastrophe, il y aura quand même une réaction, c'est ce qui vient d'être évoqué. Et cette réaction peut être constructive. Je suis plus optimiste qu'elle lorsqu'elle nous dit que finalement des gens qui n'avaient pas toujours défendu la liberté d'expression se sont fait appeler Charlie aujourd'hui. Je pense que ça ne procède pas d'un calcul, ça ne procède pas d'une récupération. Je pense que ça procède d'une prise de conscience. Charlie Hebdo, c'était l'humour, c'était l'autodérision, c'était l'esprit critique, c'était poussé à son paroxysme. Mais c'est l'aiguillon de l'imaginaire et de la créativité. C'est vraiment tout ce qui emballe, je dirais, une perspective de pensée libre. Ça fait très mal, évidemment, quand on en est l'objet. Mais lorsque l'on assiste à des événements comme celui-ci, on se rend compte à quel point, et même que ce soit le pape, que ce soit un autre chef religieux quelconque, à quel point Charlie Hebdo peut manquer dans le paysage démocratique. Donc voilà, c'est une source de contradiction, c'est une source de polémique, c'est une source de débat, mais c'est ce qui vivifie véritablement le débat démocratique.
Oui, je suis d'accord avec vous. Simplement, étaient présents à la grande manifestation de Paris des responsables politiques turcs, russes, où on ne peut pas dire qu'il y ait une liberté d'expression. Je rappelle qu'il y a en Turquie des dizaines de journalistes en prison et que ce n'est pas terminé.
Donc, même si le président Erdogan a décrété que son pays était sans doute celui qui respectait le plus la liberté d'expression et la liberté des journalistes. Donc on est aussi face à un cynisme dans les discours.
Oui, je pense que à nouveau, chacun doit faire son examen de conscience en la matière. La liberté d'expression, c'est pas un concept qui est vide, c'est un concept qui vit. C'est un concept qui vit dans les publications, c'est un concept qui vit dans les débats, dans le pluralisme. Et donc, il faut donner à ce concept des réalités matérielles. Oui. Et il faut faire sortir ces journalistes de prison, en Turquie et ailleurs.
Mais précisément, ceci peut y contribuer. Cette posture qu'ils ont adoptée, d'une manière ou d'une autre, va les lier. Ils vont devoir l'assumer. Je dirais que là encore, j'aurais été plus triste de ne les pas y voir. Demain, ils vont devoir rendre compte par rapport aux attitudes, à cette algèbre commune qu'ils prétendent partager. Et donc, pour moi, c'est effectivement peut-être suis-je trop optimiste, mais en tout cas, peut-être c'est le point de départ, en tout cas, d'une lecture qu'on va pouvoir, à leur tour, leur imposer. On va pouvoir leur demander de rendre compte par rapport à cette posture internationale qu'ils ont eue.
Autrement dit, même si c'est hypocrite, ils reconnaissent de facto la nécessité de la liberté d'expression.
Ils ne peuvent pas s'empêcher, face au scandale à l'échelle mondiale, face au scandale que ça procure, ils ne peuvent pas s'empêcher, effectivement, de dire de quel côté se trouve la démocratie, en tout cas une conception défendable de l'humanité.
Bien, je vous propose à tous les deux d'écouter à présent quelques extraits d'interviews de trois caricaturistes belges que nous avons rencontrés récemment lors d'un rassemblement de journalistes en solidarité aux personnes décédées et notamment aux journalistes décédés dans les attentats de Paris. Il s'agit dans l'ordre de Pierre Kroll, Frédéric Dubus et Nicolas Vado.
Vous savez, ça va tellement vite tout ça, on ne se rend pas bien compte. Là, je suis très ému par le soutien de la profession, des journalistes, des rédacteurs en chef, parce qu'il n'y a pas de dessin dans les journaux s'il n'y a pas de journaux et s'il n'y a pas un rédacteur en chef qui veut bien les passer. Mais ils commencent tous à me foutre la trouille, quoi, parce que moi j'ai juste envie de recommencer demain, pas dans un esprit de on continue, mais de on continue notre boulot tout simplement. Moi je dessine généralement Di Rupo et Charles Michel, c'est ça que j'ai envie de recommencer à faire demain et de pas avoir peur quand je vais le faire.
Vous pensez que vous allez pouvoir continuer à travailler normalement après ça?
Oui. En fait, nous, on travaille sur l'actualité, donc ça va dépendre de ce que l'actualité me donne. S'il y a un attentat par jour, dans nos pays, à Paris ou à Bruxelles ou quoi, je crois qu'effectivement, ce sera plus difficile. S'il y a d'autres sujets à traiter, je pourrais traiter d'autres sujets sans penser à celui-là.
Pas question pour vous, cependant, de travailler autrement.
Non. Non. Et ni question que je m'arrête. Enfin, d'abord, je ne sais faire que ça. J'ai une famille à nourrir. Et puis, non. Céder, c'est la pire des choses, quoi. Céder ou avoir peur, non, il ne faut pas avoir peur, de toute façon. Voilà.
Est-ce que leur assassinat risque d'influencer la suite de votre travail ?
Si je vous disais non, je serais totalement hypocrite. Donc oui, ça va sûrement influencer, mais je vous dis, pour l'instant, on n'a pas de recul. Je pense que l'affaire des caricatures de Mahomet de 2006 nous avait freinés. Et je pense que paradoxalement, ce qui s'est passé là aura l'effet inverse. C'est que ça va nous inciter encore plus à nous marrer d'abord, et parce qu'on présente ces gens qui sont morts comme des martyrs, mais c'était avant tout des gens qui voulaient voir le monde avec dérision. Et donc je ne pense pas que ça va nous censurer. Et je pense qu'avec cet attentat, ils ont fait ils se sont tirés mal dans le pied. Parce qu'ils ont... Ils ont tapé un pont trop loin et ils se rendent compte que tout le monde est contre eux, et même une religion qu'ils prétendent défendre est contre eux.
Martine Simonis, on vient de l'entendre, ce sont ici des caricaturistes belges, d'autres se sont exprimés, des journalistes français et dans bien d'autres pays. Est-ce que vous craignez aujourd'hui que cet événement tragique n'impose à certains une prudence qui pourrait être préjudiciable à la liberté d'expression ?
Je pense que chacun réagira un peu comme il le sent. Vous savez, moi je dis toujours, un journaliste mort ne rapporte plus aucune information. Et quand des jeunes journalistes me disent « oui, je vais partir en Irak, je vais partir », je leur dis toujours « attention, réfléchissez. Réfléchissez parce que votre vie, elle est première. » Donc, on ne va pas être kamikaze non plus. Mais d'un autre côté, tous les journalistes et l'association des journalistes professionnels, on a eu cette réaction de dire « il faut continuer ». Il faut continuer à envers et contre tout, peut-être mieux, pas plus, parce que je pense que les journalistes ici font bien leur travail. Et il faut continuer, pas spécialement en étant prudent, mais peut-être en réfléchissant. Pas en s'interdisant de faire des choses, certainement pas. Il faut traiter tous les sujets. Mais en se disant comment on les traite. Par exemple, est-ce que c'est intelligent ou pas de republier les caricatures de Mahomet ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ? Plus intelligent ? Qui ira plus loin dans le débat, qui va aider les personnes à mieux se comprendre, qui va aider les lecteurs à mieux vivre ensemble. Donc il y a une série de questions qu'on va se poser nécessairement, mais en tout cas, avec la vigilance nécessaire, il faut qu'on continue notre travail.
Henri Barthélemy-Hinsen, une réaction suite à ces interviews ?
Eh bien oui, je ne peux pas m'empêcher de songer, de me rappeler qu'il y a quelques semaines, la fondation Henri Lafontaine décernait à Cartoonist for Peace le prix de la Fondation, le prix Henri Lafontaine. Pourquoi est-ce qu'on leur a décerné ce prix ? On était bien avant Charlie, évidemment, bien avant ces incidents. Eh bien, parce que il fallait mettre à l'honneur le courage de ces journalistes, le courage de ces cartoonistes, qui, au quotidien, prennent des risques avec leur vie, dans leur pays d'origine en particulier. Et cela, dans un sentiment, précisément, comme l'a été dit, dans un sentiment de fraternité universelle. Donc, c'est vraiment le dernier combat, le dernier lieu de résistance, la garantie, vraiment, de cet humanisme. Et lorsque j'entends les témoignages qui viennent d'être donnés, eh bien je suis vraiment rassuré, et je félicite effectivement nos journalistes, mais également nos dessinateurs, qui nous indiquent clairement que la peur et la terreur ne peuvent pas être le guide de leur action. C'est tout à fait aux antipodes, c'est aux antipodes de la liberté d'expression, c'est aux antipodes de l'émancipation que l'on cherche à créer dans l'esprit des personnes et des lecteurs.
Justement, dans cette perspective de fraternité universelle que vous venez de citer, est-ce qu'il n'y a pas là aussi l'occasion de faire preuve de grande vigilance aujourd'hui et d'éviter certains amalgames qui ont déjà pu être faits ? On l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, pour ne parler que de ça.
Les amalgames, on n'y échappe jamais vraiment. Aussi bien dans le chef, je dirais, de ceux qui se disent Charlie aujourd'hui, que dans le chef de ceux qui... On l'a vu, par exemple, dans les écoles, les reportages récents l'ont montré, sont d'accord pour dire que, certes, le crime est inacceptable, mais que, d'un autre côté, il y aurait eu provocation. On voit bien qu'il y a une forme d'acculturation, notamment parmi les jeunes, ce qui est absolument inquiétant. Là aussi, l'école doit faire son travail. Là aussi, il faut se rendre compte que l'école n'a pas pour vocation de transmettre des foi religieuses, ni de les conforter, ni de les enseigner. Elle a au contraire pour vocation de partager des savoirs. Là où il y a foi, il n'y a pas de savoir. Là où il y a savoir, il n'y a pas de foi. Ce sont des matières qui ne sont pas conciliables. Et une fois de plus, si la laïcité n'est pas anti-religieuse, il faut le répéter à tout craint, il faut absolument dire que sa revendication, c'est que les grandes religions, je l'ai dit, doivent se laïciser, doivent apprendre la contingence des appartenances, doivent apprendre qu'il y a plusieurs vérités et qu'elles sont toutes relatives. Et bien sûr, les amalgames sont dangereux. Oh, je m'attends à ce qu'une Marie Le Pen effectivement s'empare de l'événement pour montrer à quel point on stigmatise. pour stigmatiser effectivement toute une communauté. Nous savons très bien que dans chaque communauté religieuse, il y a des segments de personnes qui sont effectivement favorables au vivre ensemble, qui sont favorables à cette conception très fraternelle et très, très, très humaniste, comme il y a effectivement à l'extrême, je l'ai dit tout à l'heure, les ferments du fanatisme. Et ce sont les chefs religieux qui font la différence.
Martine Simoni, sur cette question des amalgames, c'est quelque chose que vous craignez également ?
C'est quelque chose sur lequel on a travaillé déjà depuis plus de 20 ans. Je me souviens, une des premières choses que j'ai faites en arrivant comme secrétaire général à l'association, c'était de travailler avec les journalistes sur la manière de parler de l'islam. Parce que le problème se pose, il faut dire que la question se pose avec l'islam et les musulmans, et d'éviter les polarisations, les stigmatisations, des choix de langage inappropriés, de veiller à ce que on ne parle pas de cette religion comme nous, eux. En fait, ils sont dans notre société, nous sommes un peu dans la leur, et de faire en sorte que les médias ne rajoutent pas à l'incompréhension, mais au contraire, travaille la question du vivre ensemble.
Est-ce que tous les médias travaillent de la même façon à construire ce vivre ensemble aujourd'hui, ne fût-ce qu'en Belgique francophone ?
Bien sûr que non. Vous regardez les unes des journaux et vous aurez tout de suite compris que certains sont...
C'était bien le sens de ma question.
Certains sont dans l'explication, dans l'analyse, tentent en effet de rabibocher notre société, parce que c'est ça qu'il faut faire pour l'instant, et même beaucoup plus loin. Il ne faut pas rester dans le bricolage, il faut aller beaucoup plus loin dans comment allons-nous vivre ensemble. Et puis d'autres sont toujours dans une espèce de différenciation, un amalgame, et c'est évidemment dommageable. Maintenant, il appartient aussi à chacun de décider que la liberté d'expression et sa liberté de penser va le diriger plutôt vers tel ou tel média. La difficulté, c'est que parfois, des médias qui sont justement dans la tendance qu'on dénonce ici, sont parfois ceux qui se vendent le plus. Donc, on n'est pas tous Charlie. Hein.
Souvent, ceux qui se vendent le plus, par ailleurs.
Et donc, ça, pour nous, ça nous pose un vrai problème. C'est de se dire, et c'est réellement un problème d'éducation.
En termes déontologiques, ces journaux ne franchissent-ils pas parfois la ligne rouge ?
Si, bien entendu. Et le Conseil de déontologie journalistique rend chaque année une soixantaine d'avis, dont cette année, plus de 60% ont été déclarés fondés. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a une faute déontologique. Et le public peut s'adresser au Conseil de déontologie journalistique. Il faut évidemment, bon, toute la procédure est sur le site du Conseil, il faut suivre certaines règles. Mais c'est un organe qui est là pour dire la déontologie. Et dans les matières de racisme, xénophobie, appel à la haine, etc., le Conseil a déjà eu à se prononcer depuis sa création et il n'hésite pas à le faire. Donc il n'y a pas de frilosité dans la profession pour dire « ça c'est un discours de haine, c'est un discours raciste, c'est un discours qui ne doit pas se trouver dans nos médias ».
Henri Bartholomyssen, il nous reste une minute pour conclure cette émission. Je voudrais peut-être vous demander, vous l'avez déjà évoqué en partie dans l'interview que nous venons de faire, mais en quoi la laïcité peut-elle être justement une réponse à toutes ces craintes que nous avons aujourd'hui suite à ces attentats, une crainte pour sortir de ces moments de tension par le haut ?
Vous savez, la laïcité, contrairement aux idées reçues, est largement répandue, se bat pour la liberté de conscience, tout le monde en est conscient, pour la liberté de penser, mais aussi pour la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, c'est, je l'ai dit, c'est le droit de conserver la religion qui est la sienne, c'est le droit d'en changer, c'est le droit d'en avoir aucune, c'est le droit aussi de critiquer la religion dès l'instant où elle apparaît dans le domaine public. La laïcité recommande de respecter la personne. Mon interlocutrice faisait état du racisme, de la haine, de la xénophobie. Évidemment que ça, c'est une limite totale à la liberté d'expression. Il n'y a pas lieu de discuter. Mais dans le domaine de la pensée, du concept, de la religion, de la doctrine religieuse, effectivement, il faut apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire apprendre que demain, toutes les religions vont devoir coexister dans le même espace-temps, vont devoir apprendre à se pratiquer. Et ça, c'est le message de la laïcité. C'est en ça que je dis que les grandes religions doivent se laïciser pour permettre à cette humanité de progresser.
Henri Bartholomyssen, Martine Simonis, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Bonsoir.